Hommes et femmes connus et méconnus de Savoie, une chronique de Pierre Cardona.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Pour ma part, je parle au nom de la Compagnie de Savoie, qui a pour objectif de promouvoir les valeurs des pays de Savoie, et notamment la culture, l'histoire, le patrimoine et le terroir, mais aussi de transmettre et de sauvegarder l'identité savoyarde. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une figure de l'alpinisme. Celui dont je vais vous parler, c'est Jacques Balmat, le premier à avoir atteint le toit de l'Europe. Pour gravir les plus hautes montagnes, il faut les aimer. Au XVIIIe siècle, beaucoup de gens redoutent encore qu'elles n'abritent de mauvais esprits. Univers de légendes, territoire inconnu, effrayant qui tourne dans les veillées d'hiver quand la bise noire siffle sous la porte. Les cimes enneigées des pics, les glaciers, fascinent en revanche un jeune homme né en 1762 dans une famille paysanne de la vallée de Chamonix. Quand il ne travaille pas sur les terres paternelles, Jacques Balmat s'en va chercher les cristaux de roche qu'il vend à des étrangers pour récolter quelques sous. Mais le garçon a la tête ailleurs. Depuis son enfance, chaque fois qu'il lève les yeux vers la montagne blanche, il se promet en effet de la conquérir. Grimper le premier là-haut devient une idée fixe. Certains s'en amusent, ils laissent dire, sachant que d'autres avant lui ont tenté l'ascension sans succès. La neige épaisse, les crevasses, les avalanches, le vent glacial, les chutes de pierres ont eu raison des plus audacieux. À 18 ans, servant de guide à des amateurs de courses en montagne, le Chamoniard jouit déjà d'une bonne réputation, mais il souhaite avant tout réaliser son rêve. Courageux et déterminé, il persuade un ami de le suivre dans cette tentative ambitieuse, mais à court de provisions, mort de fatigue, les deux compagnons sont contraints de faire demi-tour au pied d'une arête de glace infranchissable. Cette voie n'est manifestement pas la bonne. Un passage existe, et je le trouverai, affirme sans complexe Jacques. Qui se marie 2 ans plus tard, sa jeune femme essaie de le faire renoncer à ce projet fou en vain. Opiniâtre, le montagnard se rend au sommet du Brévent, qui offre un panorama de choix sur la montagne blanche, dont il scrute les flancs avec une lunette. Pour lui, c'est une évidence. Il a trouvé la solution. Alors, malgré les désapprobations de son épouse, il se lance seul, au mois de juillet 1786, à l'assaut des pentes glacées. Large chapeau noir, enfoncé jusqu'aux oreilles, il creuse des marches dans la neige avec le fer de son bâton et la semelle de ses souliers cloutés. Contrôlant chacun de ses gestes, il progresse difficilement et la nuit le surprend à 4000 mètres d'altitude. Sans couverture, forcé de bivouaquer près d'une énorme crevasse, il comprend ce soir-là que vouloir faire en une seule journée la montée puis la descente est impossible. Au matin, grelottant de froid, le sac vide, il redescend dans la vallée, arrive chez lui, quasiment aveugle par la suite de la réverbération du soleil sur la neige. À présent, il en est convaincu. L'ascension est réalisable par les grands mulets et le dôme du goûter. Mais qui le croira s'il réussit dans sa troisième tentative? Sans témoin, ne va-t-on pas le traiter de menteur? Lui qui convoite la récompense promise par Honoré Bénédicte de Saussure, un jeune voix, au premier qui atteindrait le sommet. Hasard ou coïncidence? C'est alors que le médecin du village passe à la maison ausculter sa petite dernière. Passionné de botanique et de géologie, le docteur Michel Paccard est un montagnard aguerri. Il a 29 ans, Jacques Balmat lui propose de l'emmener là-haut. Le médecin accepte sans l'ombre d'une hésitation. C'est donc le lundi 7 août 1786. Il fait beau, partis chacun de leur côté pour ne pas attirer l'attention. Les deux hommes se retrouvent au-delà du dernier hameau. Balmat porte le sac à dos contenant les provisions, une couverture, un baromètre, un trépied. Quant à lui, Paccard emporte avec lui une boussole, un thermomètre. Ils traversent une forêt de sapins, un vaste plateau rocailleux, gravissent la montagne de la côte, dorment quelques heures à son sommet et vers 2 heures du matin se remettent en route. Paccard s'inquiète du manque de visibilité. Pour toute réponse, Balmat lui sourit. Mais les vraies difficultés commencent. D'abord, le glacier des Bossons et son dédale de crevasses, de séracs, puis la montée laborieuse dans la neige fraîche vers les grands mulets. Balmat fait la trace. Paccard s'accroche et ne dit mot. Ils ne sont pas encordés. La pente devient de plus en plus raide. La fatigue, le froid vif ralentissent leur progression. L'air se raréfie. À bout de force, Paccard voit son chapeau emporté par une rafale de vent et l'approche du dôme du goûter. Pour tenter de réconforter son compagnon, Balma lui montre dans sa lunette les deux personnes en bas, mises dans la confidence et qui agitent les bras en suivant leur marche à l'aide d'une longue vue. Les yeux rougis, la barbe fleurie de glace, les deux hommes à bout de souffle, les vêtements trempés, décident de marquer une pause. Montagnard averti, ils se comprennent sans se parler. Volonté savoyarde, ils repartent tête baissée. Paccard, qui n'en peut plus, avance à quatre pattes. Balma l'encourage de la voix et creuse avec son bâton les dernières marches dans la neige croûtée. Un ultime effort sur l'arête gelée. Le voilà au sommet du Mont Blanc. Il est bel et bien le premier. Le rêve de sa vie devient réalité. Volupté du triomphe. Tout à son bonheur, il se retourne et constate que son client n'a pas pu le suivre sur la crête sommitale. Sans hésiter, Balma redescend sur ses pas, retrouve le docteur assis dans la neige, frigorifié, le relève comme il peut et de ses bras solides le hisse sur le toit de l'Europe. Ivre de joie, de fierté, de fatigue aussi, les deux hommes se serrent longuement la main. Ému aux larmes, Paccard remercie son guide, puis consulte sa montre. Il est 18h23. Balma est aux anges, il sait qu'il va toucher la prime. Paccard relève la température, moins 6 degrés, et grave d'un trait sur le tube en verre de son baromètre le niveau du mercure. 32 minutes après leur arrivée, à la cime du Colosse des Alpes, les grimpeurs redescendent. Ils empruntent le même chemin que pour la montée et, pris par la nuit, bivouaquent. Au matin, Paccard s'étonne. « J'entends gazouiller les oiseaux, il ne fait pas jour. » « C'est que vous n'y voyez pas, le soleil est déjà levé, » dit Balma qui conduit son client par la main jusque dans la vallée, où la nouvelle de leur réussite se répand comme une traînée de poudre. Ils sont salués, fêtés, comme des héros. Seul ombre au tableau, lorsqu'il rentre chez lui, Balma apprend de la bouche de sa femme que leur bébé est mort hier, le jour même de l'exploit. Désormais célèbre, le guide reçoit de Paccard un écu pour le prix de la course, ainsi que la jolie récompense promise par Saussure, qu'il conduit un an plus tard au sommet du temps convoité. Entre-temps, Victor Amédée III, roi de Sardaigne et duc de Savoie, autorise le chamoniard à s'appeler Balma du Mont-Blanc. Victime de sa réputation, il est à présent un guide de montagne débordé, mais gagne pas mal d'argent. Tout le monde veut l'approcher, et Chamonix reçoit de plus en plus de voyageurs. Un jour, Alexandre Dumas, en personne, rend visite au demi-dieu local qui lui raconte son aventure, n'hésitant pas à se glorifier aux dépens de Paccard qui en prend ombrage. En 1811, pour sa 10e ascension, il accompagne notamment Marie Paradis, première femme à atteindre le sommet du Mont Blanc, et il gravit une dernière fois le géant des Alpes en 1817. Le temps passant, il gère ses affaires personnelles avec des résultats contrastés. En 1834, des bruits persistants circulent sur la présence d'un filon aurifère dans la vallée du Giffre, au nord de Chamonix. Âgé de 72 ans, Balma s'y rend illico. Les gens du coin ont beau le mettre en garde contre les risques encourus, il s'en moque et s'attache les services d'un chasseur de chamois. Pour lui, l'or est tout, mais un matin de septembre, sous les yeux de son accompagnateur, il tombe dans un gouffre et disparaît. On n'a jamais retrouvé son corps, mais depuis peu, son bâton. Cette chronique est tirée d'un livre de Michel Germain, président de la Société des auteurs savoyards, et celui de Pierre Hoffmann, ces savoyards qui ont fait l'histoire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et surtout, à une prochaine fois.